de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 16 janvier 1993.
Après avoir, au plan critique, vu les différents jugements, c'est-à-dire les différentes saisies des principes propres au niveau du facere, au niveau de l'agere et au niveau politique. Il faut maintenant saisir comment l'intelligence passe de ses jugements pratiques aux jugements dits spéculatifs. Autrement dit, justifier au plan critique qu'il y a pour nous diverses manières d'atteindre la vérité. On ne l'atteint pas d'une seule manière, puisqu'au point de vue pratique, il y a déjà trois types de vérité. Puisque la vérité qualifie notre jugement. Il y a une vérité dans le facere, une vérité dans l'agere, une vérité au point de vue politique. Précisera ensuite, au point de vue critique, la nature propre de ces vérités. L'intelligence, au plan philosophique, ne peut pas rester dans l'ordre pratique. L'intelligence, par elle-même, c'est ça qu'il faut bien saisir, réclame cette recherche de la vérité pour elle-même. C'est cela qui caractérise la connaissance spéculative. C'est la recherche de la vérité pour elle-même. C'est pour ça que d'une certaine manière, au plan critique, voyez, il faudrait comprendre que la vérité dans la connaissance pratique est une vérité qui n'est pas parfaite. Puisque c'est cette affirmation de la recherche de la vérité pour elle-même qui exige l'intelligence de passer du pratique au spéculatif. Il faut donc, d'une certaine manière, préciser que la vérité dans l'ordre pratique n'est pas une vérité parfaite. Ce n'est pas une vérité mitigée, mais c'est une vérité qui n'est pas parfaite. La vérité dans l'ordre de l'art, du facere, de l'art sous toutes ses formes. La vérité dans l'ordre affectif. La vérité dans l'ordre politique, ce sont des vérités imparfaites comme vérité. Pourquoi ? Parce que ces vérités sont toujours en vue d'autre chose. C'est pas une vérité qui finalise la vie d'intelligence. La vérité, dans l'ordre du facere, c'est en vue de l'œuvre. Une œuvre belle. C'est-à-dire une œuvre qui a un certain absolu. Pour l'homme. La vérité, dans l'ordre affectif, c'est une vérité en vue de l'amour. Si je suis vrai au point de vue affectif vérité dans l'ordre politique, c'est pour le bien commun. Donc, je suis en présence de trois types de connaissances qui n'ont pas d'absolu, qui sont ordonnées à quelque chose d'autre que la connaissance. Et ceci est assez facile à comprendre. Parce que quand vous cherchez ce que c'est que la vérité dans l'ordre prête, dans l'ordre du fatchéré, il y a une certaine vérité dans l'ordre du fatchéré. C'est l'œuvre. C'est en vue de l'œuvre. Quelle est la mesure de la connaissance pratique? C'est l'idéa. Le travail que je fais est vrai s'il est conforme à l'idéa que j'ai, qui mesure, qui dirige mon travail. Et si je prends une matière qui est incorrecte, qui est totalement imparfaite, qui est pourrie, prenez du bois pourri, et je veux sculpter avec, ça n'ira pas. Je ne pourrai jamais arriver à communiquer l'idée que j'ai de la statue que je porte en moi, de cette figure que je porte en moi. Et je renverrai promener cette matière en en cherchant une autre. Si je prends un outil imparfait, je n'arriverai pas à la correction, à la précision que je veux. Et je renverrai promener cet outil. J'en prendrai un autre. Vous voyez, c'est très net que celui qui travaille et qui veut réaliser une œuvre est commandé par l'idée qu'il porte en lui. Il est capable, même ayant réalisé l'œuvre, de la détruire parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il veut. Il y a des colères d'artistes qui sont extrêmement sympathiques du reste. Pas pour l'œuvre, parce que l'œuvre est rejetée et brûlée. Mais, Rouault, j'ai entendu dire ça. Disons, on dira que Rouault est un sadique. Il a brûlé 300 de ses fils. Et c'est vrai, Rouault, un beau jour, a brûlé 300 de ses tableaux. Il les a brûlés. Ça ne correspondait plus à ce qu'il voulait. Vous êtes breton pour faire ça. C'est le granit, hein, l'idée fixée dans le granit. Et au fond, ça correspond à l'attitude de quelqu'un qui veut travailler, comme ils disent, proprement. Picasso n'aurait jamais fait ça. Il les aurait vendus. C'est la différence entre un Rouault et un Picasso. Parce qu'il avait une rigueur. Et c'est sympathique, ça. Parce que ça, on sent l'homme qui ne veut pas transmettre ce qu'il porte en lui, le transmettre d'une façon fausse. Mais c'est l'étudiant qui fait une dissertation et qui, au terme de cette dissertation, la détruit parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il veut. Au contraire, l'étudiant qui dit « Oh, tant pis, c'est fait. C'est pas tout à fait ce que je voulais mettre, ça n'a aucune importance. Le professeur ne verra pas les erreurs. » Mais l'un cherche la vérité de l'œuvre et la communication de cette vérité dans l'œuvre. Et l'autre, il peut y avoir des raisons, hein. Il n'a pas le temps de recommencer. Mais celui qui peut, Rouault pouvait faire ça. Mais il voyait très bien que ce qui était autour de lui ne comprenait, ne pouvait pas comprendre cette rigueur. Donc, c'est l'œuvre qui commande. L'œuvre, c'est-à-dire, c'est l'idéal qui est la mesure de la vérité. l'œuvre doit correspondre à cet idéal. L'œuvre avec la matière. Et donc la matière doit être conforme, doit être relative à la forme que je veux imprimer et exprimer. Dans l'ordre de l'amour d'amitié, c'est la même chose. Mes gestes, mes paroles doivent être conformes à l'amour que j'ai pour l'ami. Et si les gestes et les paroles que je fais ne sont pas conformes à cet amour, je ne suis pas dans la vérité. Quelle est la mesure de la vérité pour les gestes et les paroles de l'ami à l'égard de son ami? C'est son amour. Un amour spirituel qui doit dépasser tout le point de vue sensible. Celui qui, dans ses paroles ou dans ses gestes, reste au niveau trop sensible. Ses gestes ne sont plus en correspondance avec l'amour spirituel, avec l'amour personnel qu'il a pour son ami. Ce sont des gestes grossiers qui, à la place d'aider, de coopérer à l'amour ni à la communication d'amour, arrêtent, ne sont plus ce que ça doit être. Et là encore, les paroles et les gestes de l'ami sont vrais dans la mesure où ils sont en conformité avec l'amour profond de l'ami pour son ami. Et c'est l'amour qui devient la mesure. Et dans le point de vue politique, c'est le bien commun qui mesure toutes les activités politiques. Une loi politiquement est vraie si elle permet aux citoyens d'atteindre un bien commun, de réaliser un bien commun plus parfait. Une loi qui fait que, en l'appliquant, le bien commun n'est plus ce qu'il doit être. Le bien commun diminue, se rabaisse à un niveau inférieur de plaisir, de facilité. Cette loi n'est plus bonne, n'est plus vraie. Étant supérieure parce qu'elle atteint l'être à n'importe quelle œuvre, si digne et si grande qu'elle soit, l'intelligence étant supérieure à le point de vue de l'affectivité, de l'amour. Là, il y a un petit problème, hein. On y reviendra. L'intelligence étant supérieure au bien commun, là, c'est facile. Dans l'amour d'amitié, c'est plus difficile. Et la parole d'Aristote est assez nette. Platon et la vérité, je les aime tous les deux. La vérité plus encore. Quand Aristote dit ça, il montre qu'il y a une vérité spéculative. Dépasse l'amour d'amitié. Alors, il y a un petit problème qu'on verra ensuite. Hein. Je ne le vois pas maintenant. Ce qui sûr, c'est que dans l'amour d'amitié, la vérité n'est plus recherchée pour elle-même. C'est la vérité à l'égard de l'ami. Il peut se faire qu'il y ait des conflits. Exactement comme l'œuvre réalisée n'est pas conforme à mon idéa, je détruis l'œuvre. Et les paroles et les gestes de l'ami à mon égard ne sont pas conformes à l'amour que j'ai pour lui et à l'amour qu'il a pour moi. J'ai dit non, dépassons. Arrêtons ces gestes. Vous voyez ? Il y a là quelque chose de très très net que la vérité dans l'ordre de la connaissance affective est dépendante de l'amour. Il y a donc une connaissance spéculative propre qui ne peut pas se ramener à la connaissance pratique. Et ceci s'exprime de cette façon très nette, c'est que toute connaissance, toute vérité dans l'ordre pratique est ordonnée à autre chose que la vérité, à une action, à un amour, à une opération. Il peut donc y avoir une connaissance qui a en elle-même sa propre finalité. En ce sens que la vérité, à ce moment-là, est recherchée pour elle-même. Ceci, c'est très important pour nous, aujourd'hui. Justifier que la vie intellectuelle, la vie de notre intelligence, ne peut pas rester au niveau pratique. Étant donné que la dialectique hegélienne ne fait aucune distinction et refuse la distinction entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative. Il faut donc, au plan critique, justifier cette distinction. Connaissance pratique, connaissance spéculative. Alors, il faut se demander, au plan critique, si c'est le problème de la vérité qui fait la charnière. Une vérité ordonnée à autre chose que la vérité, ou une vérité cherchée pour elle-même. Alors, est-ce que c'est suffisant pour justifier la distinction entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative? Je suis en face de la dialectique hegélienne, et je prends la dialectique hegélienne étant donné l'impact de la dialectique hegélienne sur la philosophie contemporaine, sur la théologie contemporaine. Il faut donc saisir les confusions qu'elle fait à tous ces tournants. Or, il y a là un tournant qui fait que Hegel est en opposition avec Aristote. Ou du moins ne respecte pas pleinement la distinction de la connaissance spéculative et de la connaissance pratique. Alors, je me pose le problème au point de vue critique. Est-ce que la position hegélienne est-elle un progrès par rapport à Aristote ? Je ne demande pas aux philosophes de répéter Aristote. Ils ne seraient pas philosophes s'ils répétaient Aristote. Ils doivent leur penser. Et en le repensant, il le repense forcément en le modifiant. Et c'est forcé, et c'est bien. Mais je peux me poser la question, est-ce que cette modification qu'une méthode dialectique apporte à la méthode analogique, est-ce que cette distinction est légitime ou n'est-elle pas légitime? Puisque je dois faire de la philosophie pour mon époque. Or, j'ai un nouveau Platon, terrible, Hegel. Aristote s'est opposé, du moins, à critiquer Platon. Il a dit qu'il aimait la vérité et Platon. Aujourd'hui, nous devons nous dire j'aime Hegel et la vérité, mais la vérité plus que Hegel. Et donc, quand Hegel, de fait, au plan dialectique, n'accepte plus la distinction d'une connaissance spéculative et d'une connaissance pratique, et la confusion est nette, puisque c'est la même méthode. La dialectique remplit toute sa philosophie. Et donc, si la dialectique remplit toute sa philosophie, il n'y a plus de distinction. Alors, est-ce que tout le système hegélien, c'est une question qui se pose, tout le système hegélien, toute la philosophie hegélienne, ramène-t-elle toute une connaissance pratique ou toute une connaissance spéculative? Ou, de fait, est-elle à mi-chemin? Comme la logique. Le primat de la logique. La logique, elle est... C'est une des thèses de la philosophie scolastique en disant que la connaissance logique est à la fois scientifique et artistique. Et donc, la dialectique hegélienne est à la fois scientifique et artistique. Si elle est les deux, elle est donc un mixte supérieur aux éléments simples. Donc la dialectique d'Hegel dépasse la distinction classique connaissance pratique, connaissance spéculative. Ou au contraire, dois-je maintenir, c'est la grosse question, cette distinction connaissance pratique, la vérité est un moment cheminement qui se termine à l'œuvre, qui se termine à l'ami, qui se termine au bien commun. Et la vérité est en vue de ça. Ensuite, j'aurai connaissance spéculative qui recherche la vérité. Et cette connaissance s'achève dans la vérité. Et j'aurai synthèse des deux, connaissance contemplative, qui est à la fois pratique et spéculative. Donc, 1, 2, 3. Tandis que la dialectique fait la synthèse tout de suite. La hâte de la dialectique. Tout de suite, je fasse la synthèse du spéculatif et du pratique. Alors si c'est la hâte, c'est bon. On a battu les Grecs. Les Allemands vont plus vite que les Grecs. Les Grecs ont battu la distinction. Hegel, 20e siècle. Il va plus vite. Il fait la synthèse tout de suite. Spéculatif et pratique. Et d'une certaine manière, la dialectique est une sorte de contemplation en mouvement. Je n'ai plus la distinction des trois, mais la dialectique est à la fois scientifique et artistique, et elle est contemplative. Puisque, au-delà de la dialectique, il n'y a plus de contemplation. Mais le gros problème, au plan du critique, c'est très important, et c'est vraiment à l'égard du problème de la vérité la vérité. Une vérité transcendante. Parce que se passe cette possibilité d'utiliser la vérité en vue d'autre chose montre que la vérité est immanente. Ici, dans la connaissance spéculative, je découvre une vérité immanente et transcendante. Il y a les deux. Et dans la connaissance contemplative, je suis en présence de la vérité transcendante dans toute sa force. C'est le problème de la vérité qui permet ces trois degrés, ces trois moments du cheminement contemplatif, du cheminement de la connaissance. Et ces trois moments de la vérité. Alors, je dois me poser la question par rapport au point de vue de Hegel. Ça, c'est vraiment le problème actuel dans toute sa force. Et c'est le nœud. Faut me poser la question. Et c'est pas si commode. Hein. D'y réfléchir, et non seulement d'y réfléchir, mais d'y répondre. Je crois qu'on doit tout de suite regarder que pour que Hegel dise ça, il faut que la conception de la vérité ne soit plus la même. Donc ça va très loin. Ça touche une conception de l'intelligence. Il n'y a plus la passivité de la contemplation. Impossible. Autrement, elle impliquerait le regard de quelque chose qui transcende. Tandis que là, c'est dans l'immanence même que les dialectiques se nourrissent. Dans sa propre vérité, elle se fait elle-même sa propre vérité. Il y a des moments de vérité. Et les moments de vérité correspondent tout simplement aux différents moments de croissance de la recherche dialectique. De sorte que, pour comprendre la distinction entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative, il faut comprendre que l'intelligence est faite pour saisir l'être. Primo cadit in intellectus ens. Fameuse affirmation de saint Thomas. En premier lieu, tombe sur l'intelligence de l'être. Si je découvre cela, je ne peux pas me contenter de la recherche de la connaissance dite pratique. Puisque la connaissance pratique atteint l'être dans le devenir et n'atteint pas l'être pour lui-même. Et donc, je ne peux pas saisir comment l'être est vraiment ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Si au contraire, j'essaie de comprendre comment l'être est ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, et donc qu'il y a une connaissance de l'être pour lui-même, je comprends alors comment il y a une recherche de la vérité pour la vérité. Donc vous voyez, ce n'est pas suffisant de dire que la connaissance spéculative existe pour la recherche de la vérité pour elle-même. Il faut aller plus loin. Il faut découvrir le fondement même de la vérité et comprendre que c'est l'intelligence qui est faite en premier lieu pour atteindre l'être, qui réclame cette distinction entre connaissance spéculative et connaissance pratique. Je crois que c'est cela seul qui permet de justifier, au point de vue critique, la distinction entre une connaissance spéculative et une connaissance pratique. Parce que l'intelligence est faite pour atteindre l'être. Si je ne regarde plus ça, je pourrais toujours discuter. Parce que j'aurais la tentation de dire que l'amour est plus que l'intelligence. Donc, aimer est plus que l'intelligence. Donc, mon intelligence est faite pour aimer. Et si mon intelligence est faite pour aimer, je ne vois pas pourquoi il y a une connaissance spéculative. Vous voyez, c'est très important pour nous, parce qu'on a toujours cette petite tentation, hein, même vous. Pourquoi spéculer ? L'amour est plus que la connaissance. L'amour est plus que la connaissance. On est tous d'accord que l'amour est plus que la connaissance. Et donc, soyons pour une philosophie du cœur et non pas pour une philosophie de l'intelligence spéculative. Et on n'arrive pas à en sortir. Seul le fait de comprendre que l'intelligence est faite pour l'être permet de distinguer les deux. Et seul le fait que la connaissance est faite pour l'être, je peux arriver à prouver, atteindre, saisir, dévoiler l'être premier. Et en dévoilant l'être premier, je peux comprendre ce qu'est la contemplation. Et donc ceux qui prétendent que l'amour est plus, que la philosophie du cœur est plus que la philosophie de l'être, cela tue la contemplation. Il faut arriver à saisir ça. Parce que tant qu'on n'a pas violent. Passer de la connaissance pratique à la connaissance spéculative, c'est violent. C'est violent pour l'homme, qui est un être sensible. Alors il crie, comme un putois, qu'on égorge. Il crie. Il faut passer de pratique au spéculatif. C'est tellement mieux de rester dans la connaissance affective. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux, c'est plus tendre. Agathon, au milieu de ses oreillers. Bien mieux là. C'est le ronron du chat auprès du feu. Tellement plus agréable. Il y a une espèce de violence par rapport à l'homme de découvrir que l'intelligence est faite pour l'être. Et donc de dépasser la connaissance pratique pour atteindre les connaissances spéculatives. Vous voyez, c'est sûrement au plan critique un des problèmes très important aujourd'hui. Il y a quelques problèmes comme ça au point de vue critique, il ne faut surtout pas lâcher. Le primat de la connaissance spéculative sur la logique. Et là, peut-être, vous voyez, pour comprendre que la connaissance métaphysique est au-delà de la logique, c'est peut-être le dépassement de la connaissance spéculative et de la connaissance pratique. Parce que si je demeure dans la connaissance pratique, il est bien évident que la logique seule me donne l'universel. Mais la logique est à la fois connaissance pratique et connaissance spéculative. Et donc, je découvrirai dans la logique une connaissance spéculative que je n'ai pas au niveau proprement pratique. Et je mettrai la logique au-dessus. Et en mettant la logique au-dessus, je mets la critique au-dessus. Tous ceux qui mettent la critique avant la connaissance métaphysique mettent la logique avant la métaphysique. Donc vous voyez, là, il y a un double dépassement qui est capital. Et qui, historiquement, nous montre combien c'est difficile. Il faut dépasser Kant. Il faut dépasser Husserl. C'est pas commode. Et il faut dépasser Hegel. Hegel et Husserl. Et beaucoup abdiquent, des quantités abdiquent devant ça. C'est tellement difficile. C'est l'heure. Alors, allons plus loin maintenant. La connaissance pratique, la connaissance spéculative. La connaissance spéculative se présente à moi selon trois modalités. Connaissance pratique, philosophie de la matière. C'était entre parenthèses, nature. Parce qu'en réalité, c'est la nature matière. Philosophie du vivant. Philosophie première. Alors, au plan critique, spéculative, mesure de cette vérité. Ce principe, c'est la réalité mue. C'est la réalité mue qui mesure. Et donc,